France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Présente.
La folie des années 80.
On est dans la merde en France. On est dans la merde.
C'est cela, oui.
25 millions de rubis cubes vendus.
I said I want to fuck her.
3615 infogrammes, des milliers de pins à gagner.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Une série réalisée par Cécile Poz et Marion Guimette.
Année 1983.
Le roi Léopold III est mort hier soir à Bruxelles. Il avait 82 ans. Léopold III avait régné en Belgique de 1934 à 1951, date à laquelle il avait abdiqué en faveur de son fils Baudouin. Eh oui, 1 000 milliards de 1 000 sabords, Tintin est orphelin. Son créateur, le dessinateur Hergé, est mort hier soir à Bruxelles d'une leucémie. Il avait 75 ans.
Klaus Barbie, le criminel de guerre nazi réfugié en Bolivie, vient d'être arrêté à La Paz. Une arrestation qui n'a pas de rapport avec ses forfaits commis durant la dernière guerre mondiale. Klaus Barbie, alias Klaus Altman, est accusé d'escroquerie en Bolivie.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop! Alors.
Nous commençons ce journal avec la mort de Louis de Funès. L'acteur est mort la nuit dernière à l'hôpital de Nantes. Il avait 68 ans. Il a succombé à une crise cardiaque.
N'en déplaise au camarade Jaruzelski, Lech Walesa n'est plus un citoyen ordinaire, encore moins un valet de l'impérialisme acheté à coups de dollars comme le prétendaient hier encore les journaux polonais. Depuis 10 heures ce matin, Lech Walesa est prix Nobel de la paix.
C'est un véritable phénomène musical. Michael Jackson, aux USA bien sûr, mais aussi en France. Ses disques se vendent à des millions d'exemplaires et quand on parle de lui dans les journaux, les ventes augmentent.
Nous sommes le 2 décembre 1983. Le clip Thriller de Michael Jackson est une véritable bombe musicale balancée sur les écrans. Depuis 1981, MTV fait partie du paysage musical.
Je crois que la principale caractéristique des années 80 et qui sont une vraie rupture avec au moins les deux ou trois décennies précédentes.
Yves Bigot, directeur général de TV5Monde.
C'est l'arrivée de MTV au début des années 80, caractérisé par cette chanson et des Buggles qui s'appelle « Video Killed the Radio Star ». Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ça dit combien, en fait, les vidéoclips vont changer complètement la manière d'envisager la musique, puisqu'il va falloir la concevoir de façon visuelle. Et ça va aussi changer ceux qui sont des stars ou qui ne le sont pas, puisque les vidéoclips, ça va mettre en avant évidemment l'image. Dans un premier temps, on va surtout voir des voitures de sport, si possible rouges ou jaunes, des jeunes filles, si possible à forte poitrine, en maillot de bain, assez déshabillées donc. Et pour justifier qu'elles sont en maillot de bain, l'apparition de piscines, ça tombe bien puisque en Californie, il y a des piscines absolument partout, en Floride aussi, donc c'est tout à fait pratique. Mais c'est ça, oui, qui va changer pour beaucoup, je pense, le paysage de la musique et de la chanson au niveau international. Si on n'est pas playlisté sur MTV, très très difficile d'avoir du succès, d'avoir un tube, en tous les cas aux États-Unis, puis après avec les différentes filiales qu'ils vont avoir dans différents pays, ou les autres chaînes musicales qui vont être des imitatrices du concept de musique-télévision. Alors oui, on va avoir apparaître des physiques différents. Alors bon, pour, on va dire, les chanteuses, la question du physique a toujours existé. C'est malheureusement le problème des femmes. C'était déjà leur problème au cinéma, c'était leur problème au théâtre. C'était le lot des femmes. C'est d'ailleurs ce que le féminisme du 21e siècle combat aujourd'hui. Mais alors, dans les années 80, on y était. Mais d'une certaine façon, la différence, elle s'est produite chez les garçons. Parce que là, on va dire, bien sûr, le physique a toujours compté chez les hommes aussi. Hein, on ne va pas dire que Gregory Peck, Karl Gebel ou Alain Delon n'étaient pas de beaux garçons et de beaux hommes. Mais on va voir apparaître une génération entière de beaux gars, de coiffures. Hein, puisque, notamment en Angleterre, on va voir apparaître ces coiffures alors qui ont été l'intermédiaire entre les hippies et les coiffures des footballeurs aujourd'hui, on va dire. Hein, qui sont influencés par celles du hip-hop. Mais donc, c'est beaucoup de blondeur, de mèches, de cheveux mouillés, avec alors ce qu'on a appelé le hair metal en Californie, avec les groupes de metal du type Motley Crue, Guns N' Roses, Poison, Twisted Sister, etc. Et puis, en Angleterre, dans la vague de synth-pop et de ce qui est devenu de l'électro par la suite aussi, il y avait ce qu'on appelait les groupes de coiffeurs qui allaient de Human League à Haircut 100, qui avait même revendiqué le nom de la coupe de cheveux dans celui du groupe. Évidemment, la coupe de cheveux a toujours participé du look, etc. Mais sauf que là, c'était devenu le truc dominant dans le look, plus évidemment qu'il fallait avoir quelques effets à la George Michael, qui est un archétype, qui est à la fois... c'était le nouvel homme, le nouveau mâle, parfois un peu ambigu, mais avec une barbe super bien taillée, courte. Effectivement, les coiffeurs et les barbiers devenirent essentiels dans la musique de ces années-là, oui. Et puis, ont disparu, on va dire, les sauvages, qui étaient des gens qui n'allaient chez le coiffeur qu'une fois tous les 3 ans, donc c'était autre chose. Là, c'était comme les bourgeoises américaines qui vont chez le coiffeur 4 fois par semaine parce qu'elles ne peuvent pas aller à un spectacle ou aller dîner chez quelqu'un sans être repassées par le coiffeur. Là, c'était pareil pour beaucoup des chanteurs vidéo des années 80.
En 1982, Michael Jackson sort son 6e album, Thriller. C'est un condensé de tubes en puissance, d'ailleurs, les ventes s'élèvent à 66 millions d'albums dans le monde. Du haut de ses 25 ans, Michael Jackson devient alors une icône pop mondiale. Et au début de ses années 80, Jackson regarde un film, Le Loup-garou de Londres, qui est produit par John Landis. Le film lui plaît, Jackson contacte alors John Landis et le duo va balancer sur les écrans une bombe qui va révolutionner l'histoire du clip.
I have something I want to tell you.
Yes, Michael.
I'm not like other guys.
Of course not. That's why I love you.
No, I mean I'm different.
What are you talking about?
Thriller, le clip, oui, ça bouleverse la donne, parce que certes, déjà, le vidéoclip a révolutionné la musique et a remporté la bataille de l'image.
Yves Bigot.
Mais là, c'est un investissement, comme on n'en a jamais vu, financier. Et puis, où on fait appel, évidemment, là, vraiment, au cinéma. Hein, on n'est pas juste dans du scopitone amélioré. On est dans du très, très gros budget. Et puis avec de la chorégraphie, avec de l'image, et puis de la durée surtout, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était un clip qui faisait aux alentours de 13 minutes. Donc on dépasse la chanson aussi, c'est-à-dire que le vidéoclip a une vie qui est plus large que celle de la seule chanson qui est censée illustrer.
Depuis 1981, Michael Jackson est témoin de Jéhovah. Alors quand ces derniers ont vu le clip, cela ne leur a pas plu du tout. Pour eux, ce clip est une apologie de la démonologie et de l'occultisme. Réaction de la star ? Il faut détruire les bandes. Son manager John Branca le convainc de sortir quand même le clip, mais avec un avertissement. Ce que fait Michael Jackson en écrivant ceci : en raison de mes fortes convictions personnelles, je tiens à insister sur le fait que ce film ne s'appuie en aucun cas sur une croyance en l'occultisme. Le clip sort donc sur les écrans et en incite plus d'un à réaliser de mini-films en guise de clip.
J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée.
Les années 80, c'est aussi évidemment les années clip, c'est-à-dire c'est les années où on ne va plus penser la musique sans l'image.
Mathias Goudot, co-auteur du documentaire « La véritable histoire des stars des années 80 ».
Et en France, on va non pas s'inspirer de ça, mais forcément on va suivre le mouvement. Ce sont plein de cinéastes qui vont se mettre à faire des clips. Alors on pense à « Pull Marine » qui a été un des premiers qui a été fait par Luc Besson, de Isabelle Adjani, un « Pull Marine » évidemment. Je sais que c'est Jean-Baptiste Mondino qui a fait le clip de « Téléphone, un autre monde » aussi. D'autres réalisateurs vont faire des clips. Mondino va faire le « Cargo » aussi, « Cargo nos nuits ». Jean-Pierre Jeunet va aussi, comme Philippe Gauthier, vont faire pas mal de clips. Donc, on ne pense plus la musique dans les années 80 sans de l'image. Et parmi les clips les plus remarquables, évidemment, Mylène Farmer s'inscrit vraiment dans cette nouvelle mode-là, cette nouvelle tradition, puisqu'elle va aller au-delà du simple clip ou même de simples images faites pour mettre sur sa musique, qui vont carrément avec Laurent Boutonnat, qui était son mentor, mais aussi son créateur, enfin son co-créateur, les deux, hein, Parole et Musique, Parole pour Mylène Farmer et Laurent Boutonnat pour la musique, vont vraiment créer des petits films. On pense à Pourvu qu'elle soit douce, évidemment, et toute une série de clips qui vont vraiment accompagner les morceaux. Et je crois que même ils vont faire un clip qui coûtera à l'époque 3 millions de francs. C'est-à-dire qu'ils vont, en gros, ils mettent les moyens énormes. L'existence de ce clip dans les années 80, c'est aussi parce qu'il y a l'avènement de nouvelles télévisions comme M6. Donc, c'est en mars 86, sauf erreur de ma part, et qui était d'abord TV6 et puis qui après va devenir M6. Donc là encore, c'est la naissance aussi de chaînes de clips spécifiques. Donc on a d'abord les radios d'un côté qui vont offrir de nouveaux espaces, et puis la télévision qui va offrir cette fois-ci de l'espace pour de l'image.
Je suis libertine, je suis une catin, je suis si fragile qu'on me tienne la main.
Les années 80 aussi, on développe non seulement les clips, la pub aussi devient radicalement différente. Il y a des créateurs de pub, alors qu'avant, c'était vraiment les créateurs de pub, on n'en parlait pas, ça n'avait pas beaucoup d'importance.
Bernard Dobeler, journaliste, spécialiste des musiques du 20e et 21e siècle.
Et donc, il y a vraiment une esthétique du clip, de la publicité qui est née dans les années 80 et qui s'est développée par après. Alors évidemment, aujourd'hui, on est passé à plein d'autres choses, mais je pense que le format du clip vidéo doit encore quelque chose aussi à ce qui a été inventé dans les années 80.
La décennie 80, elle contient de la folie et des excès, parce que tout va bien. Parce que jamais l'industrie du disque n'a été aussi opulente. Et du coup, ces vedettes le sont également. Et donc, ils se permettent beaucoup, beaucoup d'excentricité. Alors, Serge Gainsbourg, il a toujours eu ça en lui. Mais là, maintenant qu'il est devenu... Il est au-delà d'une star, en fait. En français, devenu une personnalité, Serge Gainsbourg. Je veux dire, on le connaît de par sa singularité. Et dans sa singularité, il y a un certain nombre de choses, effectivement, qui sont transgressives, hein, comme brûler un billet à la télévision, hein, ce qui est un truc sacrilège, hein, qui est passible de prison. Et puis, il y a cette fameuse séquence, hein, que tout le monde connaît chez Michel Drucker, où il dit à Whitney Houston, « I want to fuck you ».
So, don't try, hein. I said, I want to fuck you.
Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He said, you are great. Il dit que vous êtes très jolie.
Évidemment, c'est un truc, ça n'arriverait jamais sur un plateau de télévision aux États-Unis. C'est impossible, c'est impensable. Ça ne peut pas arriver. D'ailleurs, on n'a pas le droit de prononcer ce mot. Elle est évidemment totalement bouleversée, offusquée. Mais il s'en tient pas là. Il traite aussi sur un plateau de télé Catherine Ringer de pute. Il lui dit « Vous êtes une pute » parce que il lui rappelle qu'elle a tourné dans sa jeunesse dans des films pornographiques. Et puis il y a aussi l'incident à Apostrophe, donc l'émission de littéraire de Bernard Pivot, quand il dit à Guy Béard « Mais toi le connard, tais-toi, ferme ta gueule, toi le blaireau ». Voilà. Il y avait un antagonisme assez ancien hein, entre Guy Béard et Serge Gainsbourg. Ils incarnent vraiment deux branches très divergentes hein, de la chanson française.
Si j'ai quoi ? Affirmatif. Et quoi d'autre ? Si je baise, affirmatif. Quoi ? Des noms ? Des salopes ? Affirmatif. Des actrices ? Des gamines ? Affirmatif. De quel âge ?
Les années 80 sont les années provoques, les années sexes, et pourtant, certaines chansons se voient censurées, comme celle-ci par exemple. I Want Your Sex de George Michael. Ce titre n'invite pas à la débauche, c'est plutôt même une invitation à la monogamie. Il n'empêche, le titre est interdit d'antenne sur quelques chaînes radio britanniques et en Amérique, il peut être diffusé uniquement la nuit. Le clip, quant à lui, est plutôt suggestif.
Les années 80, ce sont aussi les années provoques. C'est des années où on va parler beaucoup plus de sexe qu'avant.
Mathias Goudot.
Et de sexe aussi bien à la télévision, en images, dans les clips, qu'au niveau du sens des chansons. Il y aura eu évidemment le Zizi de Pierre Perret, qui avait un peu défrayé la chronique, mais où évidemment Je t'aime moi non plus en 69 de Gainsbourg, qui avait fait le même scandale, hein, mais c'était... épisodiques, c'était des pointes comme ça un peu exceptionnelles. Là, dans les années 80, alors certains disent que c'est pas encore du marketing, et peut-être qu'au début, effectivement, il n'y avait pas vraiment de marketing, mais on aime la provoque, beaucoup plus. Et surtout, elle est permise. Je pense qu'il faut aussi rappeler que un peu avant 20h, sur TF1, la première chaîne, il y avait une playmate, c'est-à-dire une femme qui se déshabillait quasiment nue, vraiment quasiment nue, quand on revoit les images. Les seins tout à fait visibles, elle avait un string, mais c'était normal et à l'heure du repas, c'est-à-dire c'était accepté. Je pense qu'on n'imaginerait pas ça aujourd'hui. C'était permis en tout cas. Puis derrière, il va y avoir un peu plus la provoque. La provoque, c'est se démarquer aussi et chanter, on va dire, en montrant ici un téton et là, plus de seins. Là, il y a des exemples, évidemment, comme Sabrina et ses Boys, Boys, Boys qui vont avec ce clip évidemment mythique dans la piscine où elle se baigne, mais évidemment, un téton dépasse malencontreusement. Évidemment, c'est une image qui va surtout pas être coupée à l'époque dans le clip, qui va être au contraire promue et bien mise en avant. C'est des années où, effectivement, on ose provoquer, on ose beaucoup plus le sexe. Et c'est l'année de l'apparition aussi du Minitel. Le Minitel, c'est les rencontres, c'est ce qui... l'ancêtre de nos applis, pour parler aux plus jeunes aujourd'hui. Et le Minitel, on pouvait aller dessus pour faire des rencontres. Et à l'époque, Paul Nareff chante Marie-Lou, il va effectivement sur son Minitel pour rencontrer sa Marie-Lou. Donc ça, c'est le contexte des années 80, permet ça. Et puis à côté, il y aura une provoque, on va dire, beaucoup plus léchée, même si c'est pas exactement le bon mot, mais en tout cas beaucoup plus raffinée, qui va être celle de Mylène Farmer. Mylène Farmer, il y a un esthétisme, tout en parlant de thèmes sulfureux qui l'intéressent. Mais Mylène Farmer, c'est un auteur exceptionnel. Et puis avec Laurent Boutonnat, ils vont faire des clips très très... Ils vont s'imposer dans l'univers du clip. Ça sera les seuls à faire des clips façon cinéma. Voilà. Donc la provoque permet de tout, en fait. Ça va de Banana Split, Lio, qui parle de pratiques sexuelles de manière un petit peu cachée, à Quand tu m'aimes, c'est-à-dire Hébert Léonard, qui lui fait un clip où vraiment un couple est en train de faire l'amour, clairement, a aussi Mylène Farmer qui, elle, est dans un esthétisme beaucoup plus raffiné.
Ton regard oblique quand rien n'est lubrique, ta maman t'a tout fessé, ton bout
Et quand on parle de provocation et de sexe dans les années 80, on pense évidemment à Madonna.
Aujourd'hui, il y a toute une génération d'artistes féminines américaines, comme Beyoncé, Rihanna, qui inventent une sorte de nouveau féminisme, en tout cas qui aborde ce genre de thème. La première à avoir fait ça, c'est vraiment Madonna. C'est-à-dire que non seulement elle avait compris que les années 80 allaient être probablement hédonistes, et donc elle a intégré la culture des clubs new-yorkais, donc qui était plutôt née dans les années 70, mais la musique de danse, en tout cas, était extrêmement présente, en tout cas dans toutes les premières années de la carrière de Madonna, et encore d'ailleurs aujourd'hui. Et donc elle s'est inspirée de la culture des clubs. Je pense qu'elle a dû aussi s'inspirer de pas mal de choses, du cinéma, et peut-être de la provocation d'une certaine new wave ou du côté punk, et donc aussi d'une forme de woman power, comme ça. Donc elle était un peu féministe avant l'heure, et donc elle s'imposait par sa force, la force de son caractère, et c'était une femme qui était parfois sexy, qui se dénudait dans ses clips, mais parce qu'elle le décidait. C'était elle qui était la manipulatrice de sa propre image, si on veut. Elle a apporté ça, c'est incontestable. C'est vraiment une des premières artistes à avoir fait ça. Donc Madonna, c'est vraiment quelqu'un de très très important à ce niveau-là. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, la isla bonita.
Madonna, c'est la provoque à fond, mais j'ai envie de dire avec du fond. C'est-à-dire qu'il y a de la provoque un peu cul, comme Sabrina, comme bien avant Loana évidemment, mais comme Samantha, Touch Me, voilà. Là on est dans on vous montre du sexe et point barre. Chez Madonna, il y a du fond, c'est-à-dire que Madonna, on peut évidemment dire sans aucune retenue qu'il y a du féminisme, elle prend le pouvoir. C'est la première girl power, on va dire, de cette histoire de la pop musique, parce qu'elle s'impose en provoquant la religion, en provoquant côté sexe évidemment, avec des tenues dénudées, et puis après elle ira évidemment jusqu'à faire un film là-dessus sur sa sexualité, mais vraiment c'est pour faire avancer, en bousculant certes, mais c'est pour faire avancer les choses, et elle ne se laisse pas du tout, on va dire, manipuler par un producteur, loin de là. Madonna, elle fait exactement ce qu'elle veut.
Into the Groove, c'est un extrait de la bande originale du film Recherche Suzanne désespérément, qui sort en 1985 avec en vedette Madonna. Cette même année 1985, un autre film sort sur les écrans, 9 semaines et demie. Parce que oui, les années sexe et les années provoque concernent également le 7e art.
Il y a une quantité de films cultes qui sont un peu plus des one-shots par moment, j'ai envie de dire, mais qui vont vraiment marquer leur époque.
Dick Tomasowicz, professeur d'histoire du cinéma et des arts audiovisuels à l'Université de Liège.
Des films de danse et de romance aussi, qui vont égrener les années 80. On pense au Fame d'Alan Parker en 80, au Flashdance d'Adrian Lyne en 83, au Dirty Dancing de 87, réalisé par Émile Ardolino. Et puis des films aussi qui, je vais citer que ces deux-là parce qu'ils sont dans les mémoires, je pense, mais qui sont plus crus et plus sexy aussi, comme American Gigolo, évidemment, de Paul Schrader avec Richard Gere, qui ouvre la décennie, en 80, ou un peu plus tard, le fameux 9 semaines et demie d'Adrian Lyne en 86. Le style d'Adrian Lyne, pour sa Flashdance ici, 9 semaines et demie, est un style, en effet, qui ose complètement l'image sexy, l'image sexuelle, dans un côté très léché, un peu de publicité érotique, comme ça. Et c'est vrai qu'on est assez étonné aujourd'hui, quand on revoit ces films des années 80, de la présence notamment de scènes sexuelles assez explicites et ouvertes, mais toujours tournées avec un sens de l'éclairage, des lumières, très érotisant comme ça, bon, des choses qui ont assez fortement vieilli, il faut bien le dire, hein, notamment sur la manière d'exposer systématiquement les actrices à l'époque. Voilà, ça fait partie en effet de cette espèce de côté très décomplexé par rapport au culte des corps des années 80, hein, comme bon, l'athlétisme, la musculation, le jogging et aussi forcément cette sexualité, la mise en avant du corps féminin. À peu près, j'ai envie de dire, tous les films de l'époque, or les grands maîtres, Alain Spielberg, Zemeckis, Lucas, qui se sont toujours tenus très très loin de toute évocation des actes sexuels. Dans bien d'autres films, c'est vraiment... On a droit aux 2-3 minutes par film où on a cette fameuse scène de lit qui marque très très fort quand même cette époque. Alors que la sexualité, on en parle dans les années 70 aux États-Unis avec une autre force, où les corps peuvent être exposés aussi, mais cette fois-ci vraiment dans une optique tout à fait narrative. Il y a un côté très gratuit, si je puis dire, dans les années 80, un côté un peu service au spectateur, essentiellement masculin. On est vraiment dans ce fameux regard masculin qui est là, soutenu évidemment par la mise en scène qui vient de redoubler complètement ce regard voyeuriste. C'est très décomplexé les années 80. C'est pas qu'il n'y en ait pas eu vraiment avant, mais on peut dire que les années 60 et 70 qui vont commencer à oser montrer un petit peu ou à se référer à la sexualité vont le faire en gros comme une conquête pratiquement politique du corps. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir parler de cela. Le cinéma doit pouvoir prendre tous les sujets. Dans les années 80, cette espèce de refermement du cinéma sur lui-même et sur l'optique du divertissement et du pur plaisir au spectateur va permettre à peu près tous les excès dans la représentation de l'action, de la violence et donc de la sexualité aussi.
Les années 80, c'est aussi l'explosion des genres musicaux. La new wave, le hip-hop, la dance, l'électro, le rap et la pop. La pop anglophone avec ces deux monstres sacrés que sont Michael Jackson et Madonna qui vont influencer une foule d'artistes.
Une des caractéristiques aussi des années 80, c'est l'arrivée de la pop. C'est un genre qui existait évidemment déjà depuis les années 60.
Bernard Dobelaire.
Mais qui avait été un petit peu occulté entre deux pôles. Il y avait d'un côté le rock, peut-être la soul aussi évidemment. Et puis de l'autre côté, c'était plutôt de la variété. Variété internationale, variété française, etc., etc. Les années 80, c'est un petit peu la revanche de cette musique et le rock est un petit peu à la traîne. Il y a moins de groupes guitare, on découvre plein de choses. Et donc les grands groupes de l'époque, il y a Eurythmics évidemment, il y a New Order, enfin il y a plein d'artistes comme ça qui sont à la fois guitare et aussi musique électronique. Sweet dreams are made. Côté pop se développe évidemment grâce à des artistes comme Madonna, Michael Jackson, évidemment. Michael Jackson, par exemple, c'est vraiment un cas assez particulier parce que il a eu un énorme succès en 79, début 80, avec son album Off the Wall, mais qui était encore très funk, soul, parfois même un peu disco. Et il change assez radicalement de style en 82 avec son album Thriller, où il intègre vraiment un côté beaucoup plus blanc, pop blanche. Et sa chanson Beat It a été calquée sur un tube qui date de 1979, qui était My Sharona par un groupe américain qui s'appelait The Knack. C'est un groupe blanc, évidemment, c'était ce qu'on appelait le power pop à l'époque. Et donc il s'est vraiment inspiré avec son producteur Quincy Jones de cette chanson pour créer Beat It. Et donc il intègre des boîtes à rythme, des guitares, donc il fait appel notamment dans ce morceau à Eddie Van Halen, qui est un guitariste de hard rock américain.
Michael Jackson, il va incarner la superstar solo archi-dominante des années 80. Alors bien sûr, c'est lui le numéro 1, mais il y en a beaucoup d'autres.
Yves Bigot.
Il y a Prince, il y a Whitney Houston, il y a Phil Collins, il va y avoir Bruce Springsteen dans le monde du rock, il y a Madonna, bien évidemment. Donc on entre dans ce monde qui dépasse les groupes. Les années 60, c'était les années des groupes. Les années 70, ça se mélangeait entre les groupes et les auteurs-compositeurs, les singer-songwriters américains, issus un peu plus du folk ou du folk-rock. Les années 80, c'est le triomphe absolu des artistes solos, du culte de la personnalité que Michael Jackson va non seulement mettre en avant, mais il va aller au-delà de ça, Michael Jackson, puisque lui, il va chercher le culte de l'immortalité même. On le voit dans ses clips où il se considère, où il se met en scène comme s'il était un pharaon. Et le pharaon, ce qu'il vise, c'est l'immortalité. Donc ça aussi, c'est une rupture importante. Et il faut noter que ça ne marche pas à tous les coups. Le contre-exemple, c'est Mick Jagger, qui a essayé de suivre cette tendance très très forte, et il avait tout, Mick Jagger, pour être une superstar à la hauteur de David Bowie, de George Michael ou des autres. Ben, ça n'a pas marché, parce que son public ne l'a pas suivi. Parce que son public a ainsi affirmé qu'il adorait Mick Jagger, mais comme chanteur des Rolling Stones, et qui lui en voulait de en fait vouloir quitter et abandonner le groupe aux années 60 et 70, et à se dire qu'il n'y a que lui qui survivrait dans les années 80. Sa carrière solo a été un échec.
Il y a un petit peu moins de groupes, plus d'artistes solo aussi dans les années 80. Donc effectivement, je viens de citer Madonna, mais il y a Prince.
Bernardo Belair.
Bruce Springsteen, qui était déjà là dans les années 70, mais il abandonne à un moment aussi un petit peu son côté très rock. Il fait des chansons comme Dancing in the Dark, qui sont un petit peu plus pop, on va dire. Donc c'est vraiment une période où tout le monde se met à faire de la pop. Et donc le rock marque un petit peu le pas. Et donc cette pop trouve aussi une dimension absolument inédite en France. Bon, on connaît évidemment la phrase de John Lennon qui dit « L'enfer, c'est quand la bouffe est anglaise et les musiciens sont français ». Voilà, un truc du genre. C'était pas faux parce que la France était extrêmement, soit de chansons françaises à texte très sérieuses, soit vraiment variété, mais la pop n'avait jamais pénétré cet univers-là. Et ça arrive dans les années 80. Et l'exemple le plus frappant, c'est Étienne Dao. C'est pas lui qui a inventé ça, mais c'est le premier peut-être à avoir vraiment presque théorisé ou amené un son pop à la française. Mais il y a eu plein d'autres groupes, évidemment, à cette période. Il y a eu évidemment Rita Mitsouko, mais Desireless. Il y a eu toute une vague d'artistes qui n'était plus vraiment variété, qui n'était pas encore vraiment pop, mais donc c'est de la pop française. Et c'est vraiment un genre assez majeur et assez important. Alors les années 80, il y a aussi des gens comme France Gall, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman qui arrivent et qui font une sorte de pop. C'est plus de la variété et Goldman au début, il s'inspire beaucoup du rock. France Gall plutôt de la pop. Donc voilà, la France se réinvente dans les années 80 grâce à la pop music. Oui.
Jean-Jacques Goldman, il va arrivé dans les années 80. Alors évidemment, il a fait Sister Jane avant fin des années 70, qui est un groupe plutôt avec un groupe plutôt progressif, hein, qui est Haiphong.
Mathias Goudot.
Il va arriver dans les années 80, lui, en ayant digéré ce qu'il a écouté, c'est-à-dire le rock et le blues. Et à l'instar un peu de, on va dire, Higelin quelques années avant, mais aussi Michel Berger sur des terrains assez différents, et puis Balavoine évidemment, il va faire ce mix qui va quelque part un peu créer la variété, c'est-à-dire un mélange de chansons et de rock, c'est-à-dire de la chanson plus efficace. Avant, on avait plutôt une chanson assez traditionnelle, si on pense à Dalida, Serge Lama, il y aura évidemment quelques inspirations funk, on va dire, chez Claude François ou chez là, mais Goldman va amener ce côté efficace dans la chanson, tout comme un petit peu Michel Berger et Balavoine, ils sont un peu frères là-dessus, et c'est ce qui fait qu'il va enchaîner les tubes.
Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour.
La chanson française moderne a un peu deux piliers qui ont donné la colonne vertébrale à la chanson française et qui va vraiment éclater complètement dans les années 80. La première, elle a commencé dès les années 50 et 60, c'est Serge Gainsbourg avec tous ces interprètes, hein, qui ont commencé avec Juliette Gréco, sont passés par Brigitte Bardot, France Gall, etc. et qui, dans les années 80, sont évidemment toujours Jane Birkin, mais Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, hein, star type des années 80, et puis Michel Berger. Alors, lui aussi, depuis les années 70, mais c'est à partir de l'année 1980 que Michel va connaître son plus grand succès et ses plus grands succès. L'année 1980, entre lui, avec la groupie du pianiste, et France Gall, qui chante « Il jouait du piano debout », ils vont être numéro un pendant au moins un bon tiers de l'année à tous les deux. Ce sont effectivement deux des piliers stylistiques de la musique française depuis longtemps, mais les années 80 les consacrent absolument définitivement, parce que Serge Gainsbourg, bien sûr, hein, il a fait Mélodie Nelson au début des années 70, mais son immense succès, c'est à partir de sa version reggae de la Marseillaise, de l'album Aux Armes, etc. Et c'est là qu'il devient une immense vedette populaire et pas simplement un de nos meilleurs auteurs et compositeurs. Michel Berger et Véronique Sanson ont créé ensemble, quand ils vivaient ensemble, et chacun sur son piano, un style de chanson française moderne, c'est-à-dire qui intègre les valeurs du rock, notamment à deux niveaux, le niveau rythmique et au niveau du phrasé. Et ils modernisent complètement la chanson française. Et ils créent ce genre très spécifique, hein, très français, belge francophone aussi, mais qui fait que la chanson n'est plus la chanson, soit alors yéyé, hein, adaptée du rock américain des années 50 et du début des années 60, ni la chanson française, la grande chanson à texte de Saint-Germain-des-Prés, etc., les héritiers de Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Jean Ferrat, Charles Aznavour, Barbara, pour résumer. Eux, ils sont dans ce genre hybride qui n'est pas tout à fait du rock, mais qui n'est plus que de la chanson française. C'est vraiment voilà quelque chose qu'ils inventent et qui est un style, hein, dont vont naître et dont vont s'emparer leurs héritiers, qui étaient aussi leurs amis et leurs contemporains, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine, Francis Cabrel, pour n'en citer que trois.
C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir, l'amour et les espoirs, quelque chose qui danse en toi.
Dans les années 80, les émissions pour enfants envahissent le petit écran. Et avec elles, les dessins animés comme Candy, Goldorak, Capitaine Flamme, Jem et les hologrammes, Jace et les conquérants de la lumière, Bioman, les chevaliers du Zodiac ou encore Dragon Ball Z.
Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils.
Parmi ces dessins animés, plusieurs sont des mangas qui proviennent du Japon. Mais l'influence du Japon ne s'arrête pas aux dessins animés. Durant la décennie, le Japon va s'emparer du marché du jeu vidéo. Avant les années 80, on se rend dans les cafés pour les jeux d'arcade.
Dans les salles d'arcade, on est beaucoup plus tourné vers le jeu vidéo compétitif.
Gilles Banneux, journaliste indépendant spécialisé dans le jeu vidéo.
Dans les années 80, il y a des faits divers absolument dingues. Les championnats du monde du jeu vidéo sur borne d'arcade à Pac-Man, pour arriver à la fin du jeu avec des joueurs qui essayaient de ne pas s'endormir et qui jouaient 48 heures, qui faisaient des pauses pour aller sous la douche. Tout ça existait. Mais le rapport à la machine n'était pas le même. On ne jouait pas dans une salle d'arcade comme on jouerait sur un ordinateur à la maison ou chez les cousins ou voilà dans une salle d'arcade où il y avait aussi toute une scénographie. Tout ça était hérité vraiment du jeu vidéo selon le Japon. C'est seulement plus tard qu'est arrivé un peu des créateurs, des développeurs, des productions en tout cas européenne, et même s'il y avait déjà des productions américaines aussi.
Le 22 mai 1980, c'est lui qui fait son apparition. Lui, c'est Pac-Man, enfin Puck-Man originellement. Les joueurs s'amusent et ils modifient le P en F, ce qui fait alors Fuck-Man. Il n'en faut pas plus pour que Puck-Man soit rebaptisé en Pac-Man.
Pac-Man a vraiment quelque chose d'hypnotique. Il faut quand même se dire que c'est un espèce de demi-camembert jaune en 2D sur une borne d'arcade qui avale des gommes et qui est poursuivi par des fantômes de couleur. Beaucoup de gens se sont demandé, est-ce que ce jeu a une fin? Voilà, d'où les championnats du monde, pour arriver à la fin des tableaux, donc des levels de Pac-Man. Et Pac-Man avait vraiment ce truc hypnotique qui faisait qu'à un moment, on voulait y arriver.
Pac-Man marque aussi le début des jeux vidéo avec intelligence artificielle.
Des jeux qui, à un moment, allaient analyser ce qu'on écrivait. C'est les jeux à commande textuelle, ce qui fait qu'à un moment, par exemple comme dans SRAM, ce jeu, si on demandait à l'interlocuteur qui n'existait pas, envoyer un tableau, une scène, dans un univers fictif, on allait écrire à l'aide. Et à un moment, l'ordinateur allait analyser ça, et avec un algorithme assez simple, et certes incroyable à l'époque, il allait nous répondre « aide-toi et le ciel t'aidera », où il y avait plusieurs variantes. Si on avait commencé à insulter son ordinateur, entre guillemets, à un moment, il nous montrait, c'était très drôle ce jeu-là, il allait nous montrer une photo d'un cochon en disant, voilà une photo de vous l'été dernier à la plage. C'était absolument dingue de se dire, waouh, ce que je fais a des incidences dans le jeu, mais vraiment en tant que personne, moi, c'est à moi qu'il s'adresse et pas à ce petit chevalier dans Pitfall ou à ce citron jaune qui est coursé par des fantômes. C'est tout le fantasme de l'ordinateur et de se dire jusqu'où ça va aller.
Les ordinateurs qui vont justement jouer un rôle important dans le développement des jeux vidéo. Le grand bouleversement, l'énorme changement qui s'opère dans les années 80, c'est que le jeu vidéo entre dans les foyers. Il migre des cafés vers la maison. C'est notamment la conséquence du développement des ordinateurs personnels. En 1982, il y a le Commodore. Le 24 janvier 1984, l'ancien PDG d'Apple, Steve Jobs, présente le premier Macintosh. Cette même année sort l'Amstrad et la première version de Microsoft Windows sort, elle, en 1985. Et puis les sociétés commencent à développer aussi les consoles de jeux vidéo, Amiga, Mattel, Atari. Guy Milan, qui est le PDG d'Atari France à l'époque, déclarait que chacun d'entre nous aurait un micro-ordinateur d'ici la fin de la décennie et que ces ordinateurs étaient l'avenir du jeu vidéo. Les métiers de l'informatique et de l'électronique se fondent, on pense que ces deux disciplines vont révolutionner le monde. Il y a aussi, bien sûr, Nintendo et son personnage du début des années 80, Donkey Kong.
Donkey Kong, un des nombreux personnages de Nintendo, depuis sa première apparition en 80, n'a cessé d'évoluer comme plein d'autres personnages de Nintendo. C'est un peu comme le Beaujolais nouveau. Je veux dire, une nouvelle console arrive, une nouvelle plateforme, un nouveau support. Ce nouveau support doit avoir, et chaque année, on ressort toutes les mascottes de la firme. Même chose pour Sega, même chose pour d'autres, et on, la nouvelle version. Ça leur permettait de se concentrer sur la forme et pas sur le fond. Donc ça aussi, c'était quelque chose de totalement différent par rapport à une vision du jeu vidéo américain, je trouve, qui a peut-être plus, mais ça c'est un avis tout personnel, développé la narration avec les célèbres séries de jeux à commande textuelle et d'aventure, les King Quest, les Heroes Quest, les Police Quest, tous ces jeux-là, qui étaient peut-être plus proches du cinéma qu'un jeu d'arcade et d'action. Voilà.
Alors qu'il semble en plein essor, le jeu vidéo connaît quand même une crise au début des années 80. C'est le crash du jeu vidéo de 1983. Le leader mondial, Atari, subit des pertes conséquentes et plusieurs sociétés font faillite. C'est dans ce contexte-là que la NES explose, la console de Nintendo. En 1985, il sort un personnage qui deviendra célébrissime, Mario. En réalité, Mario naît avant 85, ce n'est pas un inconnu. Il était déjà présent dans Donkey Kong, rappelez-vous, c'était le personnage de Jumpman.
Mario, qui est le personnage de Jumpman, j'ai eu la chance de rencontrer Shigeru Miyamoto à Paris en 2003 pour la sortie de son jeu de Wind Waker. Shigeru Miyamoto, qui est quand même le grand maître de Nintendo, qui a créé tous ces personnages, et je lui ai demandé pourquoi est-ce que ce personnage-là était un plombier moustachu. Shigeru Miyamoto confie qu'au départ, il voulait faire un charpentier. Et il s'est rendu compte que dessiner des charpentes, il ne savait pas quoi en faire, ça n'allait pas vraiment fonctionner. Et puis, il a commencé à dessiner des tuyaux, c'était beaucoup plus simple, de fil en aiguille. Et il s'est dit, ok, tuyaux, plomberie, et ça marchait même pour la moustache, avec peu de pixels. Et c'est comme ça que est née cette mascotte finalement improbable. Et pendant longtemps, j'ai toujours été étonné de ne pas voir l'origine de qu'est-ce qui avait poussé son créateur à créer telle icône. Parce que c'était vraiment un contre-courant de tout. Or, c'est une des plus connues encore et toujours. Ce qu'il y avait de génial avec Mario, c'est la jouabilité. C'est un terme cher au verbiage du jeu vidéo, le gameplay, gameplay, gameplay. Et Nintendo a toujours eu ce mot-là à la bouche avant toute chose. Qu'on commence à parler d'histoire, d'une princesse à délivrer dans un château ou quoi que ce soit, le maître mot de cette société-là, c'est « il faut que ce soit jouable ». Et pour tout le monde, que ce soit plaisant. C'est du jeu, il faut que ce soit ludique. Et donc le rythme était totalement différent. Voir la télévision avec cette console de jeu, la console NES de Nintendo, et ce plombier moustachu qui sautait dans tous les sens tel un cabri, ça demandait de l'astuce, ça demandait de la dextérité, ça demandait des enchaînements. Donc il y avait un côté extrêmement gratifiant, qu'il n'y avait pas nécessairement pour tout le monde. Tout le monde ne rêvait pas de délivrer des princesses dans les châteaux. Mais c'était assez magique le fait de voir que tout interagissait très vite. Il fallait sauter, il fallait courir, il fallait ramasser des champignons, grandir, rétrécir, rentrer dans des tuyaux, ressortir par un autre monde. Et c'était vraiment une autre façon de voir les choses. Néanmoins, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi Zelda qui, avec une formule de fond et d'aventure, où là, il fallait libérer une énergie pour pouvoir aller combattre un mal absolu pour délivrer une princesse, cette fois-ci, c'était toujours avec ce maître mot-là. Il fallait que ce soit jouable dans les combats. Il fallait que ce soit très simple, quelques touches. On peut résumer ça vraiment à la manette, ce qui n'avait rien à voir avec clavier, souris, joystick éventuellement qu'on trouvait sur tous les micro-ordinateurs des années 80. Voilà, c'était vraiment une autre façon de voir les choses. C'était surtout, pour les enfants des années 80, démarrer un jeu vidéo sur un Commodore ou un PC, il fallait connaître du langage informatique. Il fallait avoir des bases de programmation pour pouvoir démarrer le jeu. Alors que là, on arrivait, on plaçait une énorme cartouche en plastique dans une boîte en plastique raccordée à la TV, et on se retrouvait avec un pistolet à tirer sur des canards, tel un chasseur, à batailler dans un jeu de boxe, ou à courir dans tous les sens avec Mario et sa bande. Donc l'immédiateté était tout autre. On avait vraiment un autre rapport au temps dans ce jeu vidéo-là. C'était vraiment une question de goût. J'ai l'impression de voir des familles comme si à un moment on était plutôt Rolling Stone ou Beatles ou les Mods et les Rockers. Voilà, c'était vraiment. On jouait pas de la même façon. Généralement, on n'avait pas les deux.
Pour Nintendo, c'est le logiciel qui compte. La jouabilité est primordiale. En conséquence, ils inventent la fameuse manette avec la croix qui permet d'évoluer de façon intuitive dans le jeu.
Les premiers systèmes qui venaient d'Atari avec Pong en 72, avec ses deux barres simulant une partie de tennis, il fallait une certaine dextérité. Avec, au départ, c'était une roulette qu'il fallait manier pour vraiment essayer d'arriver pile poil au moment de la balle. Or là, c'était avec quatre touches directionnelles et quatre boutons, parfois pas tous utilisables, on pouvait raconter énormément de choses et développer énormément d'actions. Donc c'était vraiment le fer de bataille de quelques sociétés qui avaient compris qu'on pouvait faire un jeu autrement. Voilà. Et finalement, on pouvait aussi porter à l'intérieur des foyers, chez tout un chacun, la magie qu'on avait dans une borne d'arcade, dans une salle d'arcade, avec une pièce gérée par la machine pour une partie de 2, 3, 5, 10 minutes. Alors que là, le rapport n'était pas le même.
Quelques années plus tard, le jeu vidéo connaît une autre révolution. Après être passé du café au salon, le jeu vidéo s'emporte partout. Nous sommes en 1989, Nintendo sort le Game Boy.
Pouvoir emporter son Game Boy, c'est pouvoir emporter son univers avec soi. Pourtant, objectivement, pour avoir vu arriver ce truc-là, je me disais, mais c'est moche, pourquoi est-ce que j'irais jouer à un machin comme ça, alors que j'ai la chance d'avoir accès à des micro-ordinateurs en 4 couleurs, 16 couleurs, 256 couleurs, mais à un moment, c'était un phénomène de société. On avait envie de pouvoir se dire, je peux aller me faire voir ailleurs, avec mon Game Boy, jouer au parc, même si la luminosité ne le permettait pas. C'était 75 €, on va dire ça comme ça, et ça restait quand même une somme.
Le Game Boy est indissociable du jeu commercialisé dès sa sortie, Tetris.
C'était dingue de voir à quel point quelque chose d'aussi rudimentaire que tourner des briques pouvait devenir un plaisir incroyable et une mécanique de l'esprit faisant appel à la dextérité. Ça me semblait aussi dingue que l'invention des échecs. Voilà, c'était vraiment quelque chose. Il y a eu aussi d'autres jeux moins connus. Il y a eu Sokoban, où il fallait pousser des caisses dans un entrepôt, des caisses qu'on ne pouvait pas retirer une fois qu'elles étaient coincées dans un coin. Mais Tetris, c'est quelque chose qui restera un moment, peut-être un des plus grands hold-up en termes de recettes. Et les recettes n'ont pas été à son créateur. Mais plein de sociétés ont essayé de refaire par la suite. On a eu, des années après, Candy Crush, des choses comme ça. Il y a des variantes de Tetris, ça part souvent de là.
Tetris écrit en 1984 et on le doit à Alexei Pajitnov. Pajitnov est originaire d'Union soviétique et il travaille à l'Académie des sciences du RSS. Là-bas et d'ailleurs dans tout le bloc Est, Tetris devient un jeu terriblement addictif. Ce sera également le cas à l'Ouest. Et lorsque Nintendo s'empare de Tetris, les droits d'exploitation ne sont pas versés à son auteur Alexei Pajitnov, mais bien au régime soviétique. Néanmoins, Pajitnov récupérera les droits de Tetris en 1996 après avoir émigré aux États-Unis. Le grand concurrent de Nintendo dans les années 80, c'est Sega.
Sega, c'est plus fort que toi.
L'apparition de la mascotte de Sega, c'est ce hérisson bleu qui court super vite. Le but, c'était vraiment de dire, nous, on sait aller plus vite que Mario. Voilà. Sonic, cette mascotte, la mascotte de Sega, Super Sonic, incarnait la puissance de la machine qui avait cette capacité à faire défiler les tableaux de ce hérisson à toute vitesse. C'était assez dingue parce que toutes ces consoles qui avaient pour destination d'arriver dans les salons et d'être abordables étaient quelque part des adaptations de certaines machines qu'on trouvait dans une borne d'arcade. C'était d'essayer d'avoir autant de puissance qu'un meuble d'une borne d'arcade. Les consoles, les Master System avec ce hérisson qui défilait, c'était important.
Thank you. Thank you.